Donc vous écoutez Les Amis d'Orwell et aujourd'hui donc on reçoit les membres organisateurs des Big Brother Awards. Donc on a Jérôme et puis Christine avec nous.
Bonsoir.
Voilà. Bonsoir. Donc ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on vient d'entendre donc le jingle des Big Brother Awards 2010.
Ouais, c'est un morceau qui a été composé par l'un de nos membres, Bernard, qui, je sais pas si vous vous souvenez, si certains ont été là lors de notre première cérémonie. Au café La Flèche d'Or, dans le 20e, au début, on avait un petit groupe de rock derrière nous, des grognards qui tapaient sur leur guitare. Et même Bernard en fait partie, et puis c'est lui là qui nous suit depuis longtemps, et donc il a composé ce petit morceau à la gloire des Big Brother Awards, et pour le spécial, 10 ans, parce que c'est ça la grande nouvelle.
Donc, en deux mots, ça serait bien de rappeler quand même ce que c'est que les Big Brother Awards, pour ceux qui ne connaissent pas.
Mais si, sur Radio Libertaire, qui ne connaît pas les Big Brother Awards? Tous les ans, je viens là, je fais ma petite émission avec Amanda. On s'amuse bien, on raconte toutes nos salades. Ma Christine, allez, ça fait longtemps que tu n'es pas...
Ah,
ça,
bon, à moi alors, c'est moi qui m'y colle. Hein. Bon, donc, les Big Brother Awards, c'est une cérémonie parodique où on rit mais on pleure aussi parce que ceux qui reçoivent les prix Orwell sont ceux qui font les pires atteintes à la vie privée, qui sont les fans zélés du contrôle, de la surveillance, ceux qui fichent, ceux qui traquent, ceux qui tracent, ceux qui dénoncent, ceux qui délationnent. Donc on fait ça avec beaucoup d'humour, parce qu'il vaut mieux en avoir par les temps qui courent, et on remet 5 prix, plus un prix Voltaire pour ceux qui résistent.
Donc là, cette année, c'est particulier parce que c'est les 10 ans. Vous êtes là depuis le début, tous les deux.
Oui. Christine a fait partie du premier jury que j'ai constitué en l'an 2000. Et après, elle nous a rejoints, comme beaucoup d'autres. Beaucoup sont dans l'ombre encore.
Donc, en général, c'est une cérémonie avec la remise des prix, donc personne nominée. Donc là, cette année, comment ça va se dérouler?
Cette année, on a séparé un petit peu les choses en deux, puisqu'on... Déjà le 29 mai, c'est samedi 29 mai à Saint-Denis, au Théâtre de la Belle Étoile. On est invité par la compagnie Jolie Moum. Et là, ce sera une journée entière, enfin plutôt l'après-midi et la soirée, consacrée à tous les thèmes qui nous sont chers. L'après-midi, ce sera plutôt consacré à des rencontres, des ateliers, des échanges en petits groupes. Et puis le soir, une cérémonie un peu commémorative pour nos 10 ans. Et en fait, on va la semaine, dans quelques jours, là, c'est demain, je crois. Ouais, c'est le mercredi 12. Le 12 mai, il y a une conférence publique à Paris et on va donc divulguer le palmarès. D'habitude, on le faisait dans le cadre de cette soirée de remise des prix. Cette année, on a décidé un petit peu d'avancer un petit peu la date pour essayer de profiter justement du fait que maintenant que le palmarès sera connu, peut-être qu'on pourra éventuellement aller titiller les gagnants, comme on n'arrive jamais à les faire venir le soir de la cérémonie de la remise des prix. Maintenant, on va essayer de se déplacer pour leur rendre une petite visite.
Donc ça, c'est ce qui se passera l'après-midi?
Non, ça, c'est le mercredi 12 mai. Donc c'est
mercredi 12, après la conférence de presse, vous allez vous déplacer
Je ne sais pas si c'est
le jour-là, on va le faire. Dans les deux semaines, entre le 12 et le 29, qui sera le jour anniversaire, le jour où il y aura la cérémonie, puis d'autres activités. Et l'idée, c'était aussi, de changer un peu la routine, parce qu'au bout de 10 ans, on en a un petit peu assez, et de laisser la place pour un palmarès autre, qui est le spécial 10 ans, où là, on va prendre tous les candidats, tous les candidats, ceux qui ont été primés ou nominés, les mentions, etc., des 10 ans précédents. Et puis, on va faire une sélection. Et on va proposer au public aussi de voter pour ces prix-là. Et on remettra ce palmarès-là, spécial 10 ans, le 29 au soir.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous appelez le bar camp? Parce que cette soirée, vous l'appelez bar camp.
Alors, il y a deux choses. Donc, le 29 mai, donc le samedi à Saint-Denis, il y a donc cet après-midi de rencontres.
C'est ça, le bar camp.
Le bar camp, c'est un type de rencontre qui est plutôt employé dans les milieux, je dirais, un peu techniques, technoïdes, des geeks, des informaticiens, qui maintenant continuent à se développer de plus en plus, dans le logiciel libre notamment. C'est, disons que l'idée, c'est qu'il n'y a pas une conférence. Personne ne se met devant une estrade pour parler devant plusieurs personnes. Tout le monde peut prendre la parole et se lever, prendre un micro, ou je pense qu'il n'y aura même pas de micro, parce qu'on a essayé de faire de faire des discussions plutôt thématisées, quoi, hein, en fonction de... Donc, on a évidemment thématisé notre, cet après-midi sur la contre-surveillance, c'est-à-dire de savoir que, par exemple, nous, au bout de 10 ans, maintenant qu'on a fait le constat qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, on essaye avec certaines personnes qui, dans leur domaine particulier, c'est-à-dire que ce soit le travail social, l'éducation, je ne sais pas, la jeunesse, l'informatique, l'Internet, il y a plein de gens qui résistent de leur côté, qui informent les gens sur ces abus. Et on a eu envie de réunir un peu ces gens-là et également de faire appel aux différentes personnes que l'on a récompensées dans le cadre des prix Voltaire, justement. Donc, il y aura effectivement des gens qui luttent contre le fichage ADN, contre les fichiers des écoles, des gens qui... évidemment, la vidéosurveillance, c'est quand même un dossier très lourd depuis 10 ans. Donc, tous ces collectifs, toutes ces petites forces-là, on va essayer, modestement, parce qu'évidemment, les gens, il faut qu'ils se déplacent, de le réunir le 29 mai à Saint-Denis pour discuter avant de faire un peu plus la fête, quoi. Mais...
Ouais, puis c'est ouvert à tous les gens, évidemment, que ces sujets-là intéressent. Tous ceux qui sont dans une résistance ou qui voudraient résister davantage à ça, mais sans savoir forcément trop comment s'y prendre. Alors, on prétend pas avoir les solutions miracles, hein, mais il y a des gens qui ont expérimenté des choses, il y a des choses à savoir... Il y a des possibilités légales, juridiques, de résister. Et puis, il y a d'autres types d'actions qui ont été menées par des tas de collectifs qui permettent aussi de mettre des grains de sable dans la machine et d'enrayer un petit peu, parfois, le fichage. Bon, c'est un peu... On se dit parfois que c'est un peu la goutte d'eau dans la mer, mais bon, si on est beaucoup de chevilles rondes dans des trous carrés, ça finira par produire quelque chose.
D'accord. Et alors, qui sont les membres du jury cette année, hein?
Alors, cette année, on a fait appel, comme d'habitude, hein, ça tourne autour des sociologues, de membres de collectifs, aussi des écrivains. Et là, cette année, on a deux auteurs-compositeurs du... C'est Amé et Eboué du groupe La Rumeur, qu'on connaît bien parce qu'il se trouve qu'eux-mêmes, ils subissent un harcèlement judiciaire de la part du ministère de l'Intérieur depuis 2003. Ils avaient écrit un petit truc dans une revue, même pas une revue, c'était comme un petit bulletin interne à leur groupe de rap. Et ils se sont fait attaquer par le ministère pour, je ne sais plus, injures à propos de... Des policiers qui assassinent nos frères, référence aux événements d'Algérie. Et donc, eux-mêmes, ils sont artistes, et ils sont pourtant l'objet d'un harcèlement judiciaire de la part du grand ministère de la Sécurité. Et ils ont été donc attaqués en justice plusieurs fois. Ils ont toujours gagné, mais à chaque fois, le ministère a fait appel. Et d'ailleurs, l'un de leurs... parmi leurs anciens témoins, à leur procès, les gars de La Rumeur, il y avait Maurice Rachfus et Jean-Pierre Garnier. Maurice Rachfus, ça fait 3 ans qu'il fait partie du jury. Il revient cette année. Jean-Pierre Garnier, ça fait partie des personnes... C'est un urbaniste du CNRS qui maintenant est à la retraite. Quelqu'un qui est très, très pointu sur toutes les dérives de l'urbanisation, notamment. Et en fait, il se trouve que... Donc, on a fait appel à des personnes qui ont été nominées au prix Voltaire ou qui ont été ouais, primées au prix Voltaire.
J'ai les noms.
Alors, tu peux peut-être parler.
J'ai des noms, oui. Donc, il y a Amé et Boué. Bon, alors, ils ont eu droit au traitement de star. Sinon, il y a Mathieu Bonduel du syndicat de la magistrature, bon, qui a été primé comme Voltaire et puis qui est venu plusieurs fois aussi au jury. On a une directrice d'école, Véronique. On a Gaëlle Cricorion, qui est une sociologue qui travaille beaucoup sur la propriété intellectuelle, qui est membre d'ACT UP et puis d'un certain nombre de collectifs féministes. On n'est pas en parité, je dois dire, sur le jury. En faisant des efforts, malgré tout, il n'y a que 3 femmes. On a aussi Agnès Mel, une assistante sociale du mouvement anti-délation. Francis Misiot, qui est un auteur, écrivain, ancien journaliste.
Ancien membre du jury en 2000, d'ailleurs.
Aussi, oui. Jean-Pierre Petit, membre du premier jury ou premier prix Voltaire, je ne sais plus, de Souriez, vous êtes filmé, le fameux Jean-Pierre Petit. Maurice Rachfus, qui a fait au moins 2 années de jury et qui se languissait, qui avait envie de revenir. Alors, on s'est fait un plaisir de le réinviter. Sylvia Preuss-Lossinotte, qui est une juriste qui fait partie, qui travaille avec le GISTI et la CIMADE. Et François Sautré, qui est du réseau associatif et syndical et puis qui a beaucoup piloté le collectif Non à Edwige. Et Thomas Sauvadé, qui est un autre sociologue.
Un jeune sociologue recommandé par Jean-Pierre Garnier. Voilà.
D'accord. Donc sur quel...
Je rectifie, il y a 4 filles sur 11. Donc ce n'est pas la parité.
Pardon.
Mais quand même.
Donc quels sont les dossiers qui ont relevé toute votre attention alors cette année?
On en a eu énormément. On en a eu beaucoup. C'était l'avalanche. Et puis pas... Bon, on a eu plus de 55 dossiers en tout. Mais en général, en faisant le tri, on finissait avec 25-30. Cette année, on n'a pas pu faire le tri parce que tous les dossiers méritent. Tous les dossiers, ils sont pires les uns que les autres. C'est du poids lourd. Donc on a fait un travail de tri différemment pour essayer d'aider le jury parce qu'il se retrouve avec beaucoup de choses à lire en essayant de détecter des tendances dans les gros paquets de dossiers que sont les cinq catégories état élu, localité, entreprise et novlangue.
Donc on peut commencer peut-être, vous allez nous présenter quelques dossiers.
Déjà, c'est vrai que le fait qu'il y en ait autant, qu'on en ait finalement décidé d'en laisser autant, parce que c'est vrai que généralement, on se censurait forcément. On était dans une démarche de « ok, on va pas... » Donc là, on est toujours un peu frustrés. Et là, finalement, c'est un peu plus fait plaisir. On a quand même eu évidemment plus de boulot, parce qu'il fallait quand même tout relire et tout checker, comme on dit. Donc en gros, ce qu'on appelait avant la catégorie Orwell État élu, donc qui concernait les ministres... Les députés,
les hauts fonctionnaires,
les parlementaires et les hauts fonctionnaires, on l'a un peu scindé en deux. Donc en fait, sur les deux rubriques, il y a 20 candidats déjà. D'habitude, on avait 4 ou 5. Donc on a 9 candidats des ministres États élus et on a ensuite 11 candidats dans une rubrique qu'on a appelée pour l'occasion les exécuteurs de belles œuvres. Parce qu'effectivement, il y a une chose, c'est donc de décider et donc de faire les lois. Et donc, en tant que ministre, de décider, mais après, c'est d'assumer ces décisions et surtout les conséquences de ces décisions. Généralement, qui les assume en premier, c'est les représentants de l'État dans les régions, par exemple, ou les départements, les préfets, les procureurs. Et là, il se trouve qu'il y a aussi des inspecteurs d'académie qui vont directement pour les sanctionner, les directeurs d'école qui refusent le fichier bas élèves qui, juridiquement, est très, très fragile. Et donc là, entre les deux, finalement, on a donc d'un côté les ministres qui décident et de l'autre des exécuteurs, finalement. Et il y a aussi d'ailleurs monsieur Alex Turc qui, lui, en tant que membre de la commission informatique et liberté, la CNIL, il est aussi élu, certes, il est sénateur, mais il a été nominé en tant qu'exécuteur, puisqu'on a considéré effectivement, comme depuis de longues années, que la CNIL ne jouait pas son rôle et participait justement à cette entreprise globale de surveillance. Donc là, les arguments, ils sont en ligne. On ne va pas vous les résumer ici. Monsieur Turc, il nous connaît très bien et il sait de quoi on est capable. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire pour l'instant.
Dans cette catégorie-là, on a aussi remarqué qu'il y avait pas mal de très, très gros fichiers. Je parlais de l'ensemble des fichiers, du fichage social, de l'interconnexion des fichiers sociaux qui sert à monsieur Eric Woerth. Pour la lutte contre la fraude. Donc, il a déjà été épinglé l'année dernière.
Il a déprimé. Ouais.
Mais là, ça continue. Et on a le fichier du RSA en plus, donc la complicité de M. Hirsch. On a aussi, en dehors des fichiers DMP, DMP Pro, de la santé, qui montent doucement. Mais bon, ça prend énormément de temps. On n'est toujours pas fixé sur ce que ça va être exactement. On a l'énorme fichier qu'a fait Roselyne Bachelot pour la grippe H1N1, pour la vaccination. Donc en fait, elle a constitué un fichier qui est un morceau du fichier de la caisse de sécurité sociale, mais avec des mentions supplémentaires à cause des priorités, puisqu'il y avait des prioritaires à qui on envoyait les courriers. Donc pour gérer les priorités, on a pris certains critères. Et il se trouve que tous ces éléments-là sont éventuellement communicables à des personnes s'il y a un intérêt, évidemment pour les fichiers, comme on dit toujours, mais aussi un intérêt pour les destinataires des données. Alors on pourrait penser au laboratoire avec qui elle a énormément d'acquaintances. Donc il y a des risques potentiels très gros là-dessus. Et qu'est-ce qu'on a encore comme gros fichier? Bah évidemment, bas élèves, les fichiers scolaires. Bon, ça, alors ça, c'est the pavé.
Parce que c'est vrai que bas élèves, on en parle depuis pas mal de temps en BBA. Mais là, cette année, quand même, il y a justement énormément d'autres applications. Bon, je pense qu'elles existaient sans doute avant, mais là, elles sont apparues. Alors, merci François Nadiras, hein. Merci François qui dirige donc le. Ancien président de la LDH à Toulon et qui anime donc un site internet que tout le monde sans doute doit connaître. Et François, là-dessus, sur les fichiers scolaires, c'est vraiment une mine d'or. Il repère n'importe quelle petite trace d'information dans tous les bulletins de l'éducation nationale, les bulletins officiels, des trucs évidemment impossibles à lire. Et lui, à chaque fois, il repère le truc qui va bien. Donc l'éducation, c'est vrai que bas élèves, c'est les jeunes enfants, les très jeunes enfants. Donc c'est très, très préoccupant. Mais maintenant, La vraie démarche maintenant, c'est d'interconnecter tout ça. Et donc, il y a le fameux INE, qui est un identifiant unique que chaque enfant reçoit dès la maternelle. Et donc, ça va servir de pivot pour connecter, interconnecter, à relier toutes ces bases de données. Et cette année, ce qui a relevé notre attention aussi, c'est le fichier, le livret des compétences. Alors, ça encore, ça a été créé de manière évidemment expérimentale, hein, comme base élève au début. Et c'est donc une démarche pour connecter Sconnet, donc le logiciel, le fichier du second degré, à toutes les antennes pour l'emploi. C'est-à-dire que tout le pôle emploi aura accès bientôt à un fichier de chaque élève en sortie du système éducatif. Et donc évidemment, pour des besoins pratiques les besoins pratiques qui sont mis en avant pour dire comme ça, évidemment, l'élève n'aura pas à retaper son dossier. Donc, le fichier des compétences est quand même un truc très, très pointu, enfin sensible, parce que les compétences, il y a ceux qui ont les compétences et ceux qui n'ont pas de compétences. Donc, c'est la porte ouverte à toutes les discriminations pour savoir qui a ou pas tel niveau en anglais ou en mécanique. Et donc, les compétences, pour nous, c'est quelque chose de très sensible et pourtant qui ne l'est pas, d'après la loi, protégé, comme les opinions. Ou comme l'appartenance à des partis, des syndicats, etc. Voilà.
Et donc, qui est à l'origine de ce fichier ?
Eh ben, c'est l'Éducation nationale, tout simplement. Et ça a été créé, une déclaration que le collectif de résistance...
La paternité, c'est, c'est la succession de ministre de l'Éducation nationale. Oui, voilà. Donc, avant Darcos, j'ai même déjà oublié son nom, mais Xavier Darcos en fut un particulièrement haï partout.
Tout ce que fait Châtel actuellement l'éducation, c'est le dossier de Darcos. Quoi. Même si maintenant il est en disgrâce...
On a des candidats neuf langues assez sympathiques aussi cette année.
Avant peut-être de passer à une autre catégorie, on va écouter un morceau de musique, donc Femouz T.
Tous les dimanches matin, on aimait bien venir chanter nos refrains. À Cézernin sur les marchés tous les dimanches matin, on aimait bien venir chanter nos refrains. À Cézernin sur les marchés tous les dimanches matin, on aimait bien venir chanter nos refrains. À Cézernin sur les marchés tous les dimanches matin, on aimait bien venir chanter nos refrains. Il y a les fripiers toujours en train qui laissent tout à bon marché. Il les assoudent sur plus de l'armée. Les antiquaires un peu amers qui regardent un peu de travers ceux des quartiers venus vendre leur BD. De religieuses radieuses qui mettent la vie à la page et un sourire au vent de Dieu. Marcher tous les dimanches matin, on aime bien venir chanter nos refrains. Assassinat sur le marché tous les dimanches matin, on aime bien venir chanter nos refrains. Le marchand d'encyclopédie, un vieil habitué du lieu qui sait d'avance à qui il vendra le mieux. Y'a un bazar du maquillage, car ici au marché aux puces, pour les coquettes aussi il y a des astuces. Un bouquiniste qui nous dit j'aime beaucoup votre musique, mais pour vendre mes livres c'est pas pratique. Assassinat sur le marché tous les dimanches matin, on aime bien venir chanter nos refrains. Assassinat sur le marché tous les dimanches matin, on aime bien venir chanter nos refrains. Et si quelqu'un qui vous vient lever le nez en l'air, il se peut vous aller tomber, c'est certain. Tomber sur un des magiciens de la mergasse et petit pain et des beignets pour les mordus des sucrés. Et comme on n'est jamais blessé de voir son aller le soleil, on le retient en terrasse de café. Assassinat sur le marché tous les dimanches matin, on aime bien venir chanter nos refrains. Assassinat sur le marché tous les dimanches matin, on aime bien venir chanter nos refrains. Assassinat sur le marché tous les dimanches matin, on aime bien venir chanter nos refrains. Assassinat sur le marché tous les dimanches matin, on aime bien venir chanter nos refrains. Bon, bon, bon. Tchou, 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 tchou. Hey. Hey.
parlait du marché aux puces, on disait on pourrait aller faire un tour à Niquette. Niquette, ça veut dire crochet à hameçon. Si vous voulez chacun le sien, on attrapait les objets. Et si on lançait un appel aux artistes et aux officiels pour pêcher vos idées mêlées dans les caisses. À Saint-Cernay, sur les marchés tous les dimanches matin, on aime bien venir chanter nos refrains. À Saint-Cernay, sur les marchés tous les dimanches matin, on aime bien venir chanter nos refrains. À Saint-Cernay, sur les marchés tous les dimanches matin, on aime bien venir chanter nos refrains. À Saint-Cernay, sur les marchés tous les dimanches matin, on aime bien venir chanter nos refrains.
Radio Libertaire 89.4, vous écoutez toujours les Amis d'Orwell et aujourd'hui donc on est avec Jérôme et puis Christine, donc des organisateurs des Big Brother Awards 2010. Donc on fait un peu le tour des dossiers, on a parlé de l'Orwell État élu et tu avais envie de dire quelques mots, enfin un peu plus peut-être même, sur l'Orwell Novlangue.
Oui, on a de jolis petits candidats cette année. Alors bon, pour exemple, il y a évidemment le terme vidéoprotection qui a été imposé par un texte de loi qui oblige à réécrire les précédents textes de loi. Donc on est en plein dans le roman. On est en plein dans le boulot de Winton Smith qui réécrivait les choses pour que ça reste en accord avec la réalité officielle. On a les voisins vigilants, aussi connus sous le nom de citoyens relais, citoyens volontaires, qui sont ceux qui contribuent à aider la police en surveillant, en dénonçant, en allant raconter qu'un tel, un tel, les jeunes là du coin, ils font ceci, cela, etc. Bon, voilà.
Ça appelle ça de la coproduction de la sécurité.
Ouais. Vous avez des exemples un peu de voisins citoyens vigilants?
Oui, oui, il y en a pas mal.
Les voisins vigilants, bah, c'est né au Canada, je crois. Et c'est, t'as un logo, t'as un site internet, t'as un logo, t'as une charte à 2 balles. Et tu es un petit maire d'une commune rurale, tu sais pas quoi faire pour redorer un petit peu ton blason, et ben tu adhères à ce truc-là, tu reçois les t-shirts, le panneau pour mettre dans ta ville. Alors le panneau des voisins vigilants dans certaines villes, c'est un œil comme Love Story, tu vois. L'œil vigilant, tu vois. Et c'est un truc mais qui est basé sur aucun texte quoi, c'est pas réglementé, les gens sont anonymes, enfin c'est anonyme. Oui, évidemment, ils sont anonymes, mais ils sont surtout, ils sont pas payés, c'est pas.
Ils sont défrayés.
Ils sont défrayés aussi.
D'accord. Ouais, ouais.
Alors ça, c'est ça, ouais. T'as les défraiements et à côté, t'as les citoyens volontaires. Oui, alors eux, ça, ouais. Ça c'est un truc officiel depuis 2007, 2005 à l'intérieur. Ça, c'est des gens qui peuvent être ou pas d'anciens policiers ou gendarmes. Et là, eux aussi, ils peuvent être dans un espèce de réseau informel de personnes qui informent les policiers de telle ou telle activité. Voilà. Sans être eux-mêmes mandatés par la force publique. Donc les voisins vigilants, c'est une vraie mode en France. Et généralement, il y a dans le sud-est de la France, évidemment, le Var, le Vaucluse, tout ça, le Nord, Pas-de-Calais, alors là, ils aiment bien. Et pour nous, ça, c'est tout simplement la porte ouverte à la délation, quoi, tout simplement. Et puis évidemment, c'est toujours les mêmes qui dénoncent, c'est toujours les mêmes qui sont dénoncés dans ces cas-là. Tout le monde le sait, donc c'est vraiment de la grosse manip. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en novlangue?
Les journalistes qui font le travail de la police.
Oui, là, c'est vrai qu'on s'est... Bah oui, parce que la novlangue, c'est quoi? La novlangue, enfin, la novlangue dans le roman d'Orwell, c'est ce nouveau langage qui formate les esprits pour les mots valises qu'on recrée pour finalement influencer l'opinion des gens. Notre rubrique novlangue, on s'en sert aussi pour dénoncer donc le discours, les postures des politiques, des entreprises, des individus, qu'ils soient élus ou pas élus, qui utilisent finalement le discours pour manipuler et donc faire accepter la surveillance aux gens de manière plus... Et c'est vrai que les médias, mine de rien, on en fait partie. Et puis on est journaliste, on est pas mal au sein des Big Brother Awards à connaître très bien les médias et à en vivre de temps en temps encore. Mais les journalistes, mine de rien, c'est pas que les rédactions. On peut s'imaginer que les grands médias TF1, M6, Le Figaro, les grands médias dirigent les journalistes pour qu'ils fassent des choses qui aillent bien aux politiques. C'est pas que ça. C'est qu'évidemment, il y a des lignes éditoriales. Mais il y a aussi des journalistes qui sont dans leur coin, zélés, et qui dénoncent. Donc on pourrait en faire à l'appel. Donc là, on a tiré 5 ou 6 cas qui nous ont paru emblématiques, qui ne sont pas toujours directement liés à la surveillance et à la vie privée, mais qui font partie d'actes qui nous paraissent déjà complètement à côté de la plaque par rapport au rôle de l'information.
Donc là, c'est des journalistes, pas des médias, mais des journalistes qui se sont manifestés.
Il y a des émissions. Il y a des émissions particulières. On en a vu fleurir une ou deux, là, il y a pas très longtemps. Il y a des émissions, parfois c'est un journaliste ou c'est le producteur de l'émission qui peut faire des déclarations particulièrement douteuses. Mmh. Ou bien ça peut être carrément la direction de la chaîne, comme dans le cas de France 3, où là, quand Rue 89 a publié cette vidéo de Sarkozy sur le plateau avant l'émission, et qu'ils ont voulu à tout prix punir ceux qui avaient osé transmettre la cassette, si la direction de France 3 n'avait pas accepté de porter plainte, ils n'avaient aucun motif. Et actuellement, le truc est toujours en cours et il y a des gens mis en cause et voire mis en examen, quoi, qui sont encore interrogés par le juge.
Alors on a aussi Emmanuel Chin. Hein, qui est l'ancien qui présentait Capital et qui maintenant produit pour Canal+. Pour TF1, 100 minutes d'investigation, un nouveau magazine d'investigation. Alors sur TF1, tu as un petit peu peur. Et le premier numéro qui est sorti en mars, trafic de drogue en banlieue, évidemment, comme par hasard. Et ça a fait un peu de bruit puisque justement, le jour de la diffusion du sujet, les flics ont débarqué dans la cité, quoi. Voilà. Et puis évidemment, Monsieur Chin, c'est... vautré dans les plateaux de télévision pour expliquer qu'ils n'avaient rien à voir avec ça et qu'ils avaient été déontologues jusqu'au bout et qu'ils avaient juste montré le reportage avant aux flics, quoi. Voilà. Sinon, il y a aussi l'histoire de Continental. Vous savez, les syndicalistes,
ouais.
Hein, qui ont été poussés au saccage d'une sous-préfecture à la suite d'une décision de justice, là, parce que ils avaient tous passé un accord avec les médias, donc les photographes, donc le presse écrite, les télés, pour que... quand ils rentrent dans la préfecture, les images qui sortaient de cette action soient floutées. Tout le monde a accepté, sauf TF1. Et en plein JT, ils ont balancé les têtes des gens. Et évidemment, ces images-là ont été utilisées lors du procès. Donc là, c'est typique, évidemment, c'est un problème technique, on n'a pas eu le temps de flouter les images et tout. Donc là, c'est directement dans la liste. Et sinon, donc, dans la cité France 3, il y a aussi donc, le producteur des Infiltrés, l'émission de... Oui. De France 2, qui a donc innové en matière de journalisme. Donc, ils mettent des caméras cachées sur eux pour nous expliquer qu'ils font des enquêtes de terrain. Voilà. Et donc, le producteur a confondu un petit peu les. Qu'est-ce qu'il a raconté déjà, Chabalier, là-dessus?
Il a dit, c'est pas Chabalier, hein, c'est un petit jeune.
Mais Chabalier, il a parlé. Il a défendu son petit jeune. Hein.
Oui, mais enfin, c'est pas Chabalier qui a parlé, c'est ce type-là, j'ai oublié son nom, mais sur Inter, il expliquait que bon, les flics étaient venus le voir, ils avaient fait un sujet sur la prostitution, les filles de l'Est, les mineurs, quoi, avec les réseaux de prostitution. Et donc, les flics étaient venus les voir pour la bonne cause, puisque c'était pour arrêter les proxos, et ils demandaient aux filles de. Enfin, ils voulaient les contacts des filles pour. Les faire balancer, quoi. Et alors là, il a refusé et sur France Inter, il expliquait que oui, mais bon, si ça avait été des terroristes, là, il aurait donné, bien entendu, ses sources.
Ou des pédophiles.
Oui, c'est ça.
Après, ils ont fait l'enquête sur les pédophiles, ils ont donné des infos.
Oui, ils ont donné des infos, quoi. Donc, vaut mieux pas le laisser aller dans un petit village où il y aurait une épicerie avec des gens qui vivraient là et qui auraient aussi des opinions politiques bien marquées parce que, à mon avis, ils donneraient tout.
Et le dernier, parce que c'est vrai qu'il y a M6 avec ses deux émissions phares, Zone Interdite et Enquête Exclusive. Bon, c'est surtout la période de la milliardaire qui nous intéresse, parce qu'il est resté quand même 6 ou 7 ans à l'antenne, ce monsieur, journaliste évidemment. Je pense qu'il doit avoir sa carte de presse encore. Et donc voilà, Zone Interdite, Enquête Exclusive, est-ce qu'il est besoin de rappeler, je dirais, quelles sont ses émissions? Donc c'est une espèce de grand reportage, toujours... généralement embarqué dans une équipe soit de policiers, soit de CRS, soit de pompiers, des fois. Donc c'est toujours la nuit, la délinquance des mineurs, etc. Et Zone Interdite, ben c'est une émission de M6 qui dure depuis des années et qui a toujours été sur les mêmes thèmes. C'est un peu les sujets qui soufflent sur la braise sécuritaire de manière permanente. Quoi, voilà. Et il y a notre dernier du Figaro, Jean-Marc Leclerc. Jean-Marc Leclerc, c'est un journaliste du Figaro.
On ne le présente plus.
Ouais, ben si, je pense qu'il doit quand même être, assez dans l'ombre, mine de rien, parce qu'il s'occupe de toutes les questions de sécurité, notamment de vidéosurveillance dans le Figaro.
Vidéoprotection.
Pardon, excusez-moi. Et Leclerc, ben ça, on peut en dire des. On parlait des heures, mais en fait, il est aussi journaliste au Figaro, il est aussi membre du groupe de contrôle des fichiers policiers, c'est-à-dire une espèce de commission un peu informelle créée par Sarkozy, dirigée par Alain Bauer, qu'on connaît très bien. Et donc, ce monsieur, donc, qui est journaliste, il est membre de cette commission-là, qui est censée quand même réfléchir et de faire des propositions, alors qu'il est quand même quelqu'un qui est censé avoir du recul. Et évidemment, il écrit sur les questions liées à ces thèmes-là. Donc, c'est quand même très déontologiquement impossible à suivre. Et il s'est récemment fait remarquer en août dernier, lorsqu'il a révélé les premières fuites sur un rapport qui aurait prouvé que la vidéosurveillance était efficace. Et deux mois plus tard, on s'est rendu compte que c'était un rapport commandé par l'intérieur, qui avait été évidemment dans ses conclusions complètement orientées. Et les sociologues qui se sont penchés dessus après l'ont complètement démonté. Donc M. Leclerc, finalement, fait partie de ces gens qui rendent des services. Et puis, en retour, on imagine qu'évidemment, on lui rend aussi quelques services.
Il aurait pu figurer chez les exécuteurs, presque.
Par exemple, voilà. C'est pour ça que la frontière entre nos catégories, les personnes qui sont nominées, des fois, la frontière est un peu...
Enfin, quand même, vous voyez, on a du beau monde.
Vous allez, on se fait plaisir.
Alors, c'est-à-dire les exécuteurs de qui vous parlez hein.
Bah, c'est de la catégorie qu'on a créée spécialement cette année, donc pour distinguer les ministres qui prennent des décisions qu'ils sont censés les prendre, et donc les préfets, les procureurs, les présidents de commissions administratives, comme M. Thur.
Les exécuteurs de bases œuvres, dans la catégorie Orwell et État et élus. Ouais,
voilà, pour distinguer donc ceux qui décident et ceux qui exécutent les ordres, finalement. Comme dans toute bonne armée qui se respecte.
Alors, je m'aperçois d'un truc, là, en regardant la catégorie entreprise, qui est la suivante. Il y aurait presque une mention pour les banques, parce qu'il y en a un paquet. Je n'avais pas fait attention. Il y a Auchan et sa banque Accor. Expérimentation d'un nouvel identifiant biométrique pour les usagers. Y a BNP Paribas, la Banque Postale et LCL. Ça, c'est toutes les histoires qui avaient été dénoncées par des collectifs qui défendent les sans-papiers parce qu'ils balançaient les clients qui venaient à leur guichet. Ils appelaient direct la préfecture et le gars se retrouve en centre de rétention le soir. Et il y a aussi les caisses d'épargne qui, elles, envoient des questionnaires puisque la loi les oblige maintenant à contrôler l'identité, l'adresse, etc. de leurs clients. Donc, ils ont tendance à redemander, à prendre les passeports pour filer faire une photocopie dans la pièce d'à côté, demander qu'on en fournisse quittance, justification de travail même. Là, ça commence déjà à déborder. Mais bien plus, parce qu'après, ils demandent le nombre d'enfants, ce qu'ils font, comment ils s'appellent, en quelle classe ils sont, est-ce qu'on a un salon, quand est-ce qu'on l'a acheté, etc. etc. Enfin, ça devient vraiment super intrusif. Et ils glissent ça dans l'enveloppe avec le relevé de compte mensuel. Hop, il y a le questionnaire et il y a des gens qui n'osent pas ne pas répondre. Il y en a d'autres qui sont très fâchés et qui ne le font pas, mais il y en a qui n'osent pas ne pas répondre et ça, c'est pas légal. C'est pas légal.
Et le but, c'est de revendre les fichiers ensuite à des commerciaux
Oui, bien sûr. S'ils en demandent autant, c'est que forcément, il y a une revente des données derrière. Oui.
Comme ça se fait beaucoup, oui. Et c'est quoi ça, la RATP et ses caméras clandestines?
Tiens donc, les caméras clandestines dans le métro, mais c'est pas possible.
Il y a déjà pas mal.
Mais ils oseraient pas. Non mais est-ce que vous connaissez les caméras dans les rames? Parce que les caméras sur les quais, tout le monde les voit.
Ah oui.
Mais dans les rames, vous les connaissez celles-là?
Ben non.
Ben voilà, ligne 2, ligne 14, parce que ligne 14 c'est automatique. Et alors je sais pas s'il y en a autant que dans les lignes 2, mais dans la ligne 2 il y en a 60 par rame.
Ligne 2 ou ligne 14?
La ligne 14 c'est les mêmes types de rames. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de caméras. La ligne 2, j'ai vérifié. Il y a 4 caméras par porte.
C'est au niveau des portes qu'elles sont ?
Voilà. Et en tout...
Donc je ne les ai pas vues, moi, j'apprends tous les jours.
Pour ceux qui n'habitent pas Paris, les métros aujourd'hui à Paris sont, comme dans toutes les capitales, sont en un seul tronc. C'est un gros boudin. Il n'y a plus de séparation entre les wagons. Et donc là, sur un train de 5 wagons, vous avez 60 caméras. Voilà.
Ah oui, non, mais alors là, j'avoue...
Elles sont signalées, pas signalées ?
Bah, elles ne sont pas signalées, moi, je n'ai rien vu. Hein.
Bah, c'est pour ça que le candidat, il est intéressant, parce que là, il se trouve que, généralement, quand on fait de la vidéosurveillance, on doit informer les gens, et pas simplement avec un petit panneau à l'entrée. C'est l'information claire et permanente. De manière permanente, on doit être informé. Et quand on rentre dans le métro, on change d'espace, on rentre dans le train. Et là, il n'y a rien. Il y a marqué consigne de sécurité. Alors, évidemment... attention aux doigts quand les portes se ferment, mais pour expliquer que ben, y a des caméras qui sont dans le métro et que les gens sont surveillés, c'est la loi et la RATP s'assoit dessus complètement. Alors évidemment, ils vont nous raconter que c'est pas actif, monsieur, elles sont pas activées, mais jusqu'à preuve du contraire, la loi elle distingue pas les caméras actives ou pas. Dès que le système est là et que les gens peuvent le voir, même si c'est caché, puisque c'est des glaces sans teint.
Mais ça va quoi si elles sont pas activées ?
C'est des glaces sans teint, donc.
C'est comme ça qu'on.
Vous rentrez dans le métro ligne 2,
ouais.
À droite et à gauche de chaque porte, vous avez comme un mobilier urbain un peu design, un peu ocre, tu vois. Et il y a une petite grille, d'ailleurs on peut croire que c'est un micro, et au-dessus, un petit carré noir. Voilà. Et ben, mettez un flash avec un appareil photo devant, vous verrez que derrière, il y a une caméra. Et c'est une glace sans teint, c'est-à-dire une glace fumée, quoi.
D'accord.
Et à Grenoble, qu'est-ce qui s'est passé récemment à Grenoble ? C'est le même principe. D'ailleurs, Michel Destot, le maire de Grenoble, est dans les nominés cette année en localité. À Grenoble, en février ou en mars, ils se sont rendus compte qu'il y a 13 caméras dôme, donc les grosses caméras qui scannent à 360 degrés, ont été installées sur les grands axes de circulation. Alors évidemment, dans ces cas-là, on dit oui, mais c'est pour surveiller le trafic, monsieur. Mais comme c'est des caméras dôme qui zooment à plusieurs centaines de mètres, excusez-moi, mais là aussi, pas d'information du public, ni de panneaux. Le conseil municipal n'était pas du tout au courant. Donc là, on en vient, on nous habitue aux caméras de surveillance, et on en vient de plus en plus à subir des décisions complètement arbitraires, quoi. Donc là, le 1er mai, y a eu un petit commando festif à Grenoble, et deux caméras ont été pétées, voilà, à coup de marteau. Bon, peut-être que c'est ça qu'ils cherchent, hein, finalement, si... la surveillance illégitime, quelque part, un jour, ça se paye, quoi. Déjà que nous, on trouve qu'elle est complètement illégitime tout le temps, mais quand elle est illégitime et en plus illégale, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre que les casser, quoi ? Franchement, là, ils nous tendent la perche, quoi.
Donc, elle a raté. Et Desto, en plus, il anticipe, parce que dans la LOPSI 2, il y a cette autorisation au préfet de mettre à son gré des caméras quand il y a des manifestations, y compris de manière ponctuelle. Donc un contre-sommet ou un truc dans le Larzac ou je ne sais quoi, une manifestation antinucléaire à un moment sur un site et hop, ils mettent des caméras. Mais là, c'est l'autorité du préfet. Mais la LOPSI 2, elle n'est pas passée. Et en plus, elle vient d'être repoussée. Ça recule. Enfin des bonnes nouvelles.
Ouais. Donc voilà. Donc en novlangue, voilà. Puis on a aussi... On a aussi un professeur de médecine qui fait l'apologie de la biométrie en disant que c'est la liberté, qui a fait une conférence à Sophia Antipolis dans le sud de la France. On a un projet de recherche qui s'appelle le projet Doxa, qui a l'air assez inoffensif, mais comme derrière il y a Thalès, ça peut forcément que sentir mauvais. Sinon, ouais, les entreprises. Et puis donc, on a une petite mention, parce que donc on avait encore là aussi beaucoup de candidats dans les entreprises. Mmh. On a décidé finalement de scinder un petit peu la poire en deux et de proposer une mention spéciale service Internet. Voilà, parce que là aussi, on est abreuvé tous les ans de candidatures. C'est pas facile de trier. Mais c'est vrai que là, par exemple, au niveau Internet, évidemment Facebook, mais là, cette fois, Facebook, c'est plutôt Facebook et vous. Parce qu'on rappelle évidemment que sur Facebook, personne n'est contraint. Tout le monde est censé savoir ce qu'il fait. Donc on met quand même en exergue le fait que la société Facebook ne fait rien sans consentement des gens, quelque part, même si elle est, en tant que société commerciale, poussée à tromper, à faire des... Notamment récemment, elle a changé ses conditions de service pour être un petit peu plus intrusive pour les gens. Google encore, évidemment, pour ce qui a été dit récemment par son PDG. Les services de géolocalisation, donc il y a notamment Foursquare qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, qui est quelque chose d'assez grave puisque ça incite beaucoup plus de gens que prévu à se géolocaliser pour tout et n'importe quoi. Évidemment, derrière, ces données sont sensibles parce qu'elles peuvent se revendre facilement. Et voilà, c'est aussi une partie de nous-mêmes qu'on laisse en pâture.
Et là, je me pose une question, est-ce qu'il est possible d'utiliser, je ne sais pas, Facebook ou Twitter en contrôlant la machine, c'est-à-dire en restant anonyme ou en tout cas en contrôlant la diffusion de nos données personnelles. Est-ce que ça, c'est possible?
Non, je veux dire, personne ne peut répondre à cette question concrètement, à part d'être le PDG de Facebook. On pourrait dire, a priori, oui. Oui, on peut évidemment prendre un pseudo.
Si tu mets zéro information. Ouais.
Mais le pseudo derrière, ça peut être lié à un vrai mail qui lui-même renvoie sur une page web que tu as oubliée ou un IP. Ah, un vrai nom, le tien. Donc voilà, donc c'est peut-être pas que Facebook qui pourrait faire tout ça. Mais en revanche, tout le moteur sémantique qu'il y a derrière ce site internet, il est fait pour ça. Il est fait pour pouvoir retrouver les gens à leur insu, quoi. Parce qu'évidemment, à chaque fois, c'est mis en avant pour dire mais oui, c'est pour vous aider à retrouver vos vieux amis que vous connaissez. Vous n'avez même pas qu'ils sont sur Facebook et nous, on le sait. Donc on vous les propose. Voilà.
Non, puis là, en plus, comme il y a 1,5 million d'adresses Facebook, de comptes Facebook qui ont été retrouvés en vente par paquet de 1,000 sur Internet. Donc c'était un pirate, je ne sais plus trop d'où, iranien ou bulgare, enfin je ne sais plus. Non, là ce sont des comptes Facebook qui se sont retrouvés en ligne. Il les vend, alors c'est pour les gens qui font du spam ou autre chose, quoi. Genre entre 25 et 40 euros les 1,000 selon si tu as beaucoup d'amis ou pas. Donc ça, déjà rien que ça, le fait d'avoir un compte, si c'est pour se retrouver en adresse expéditeur de tu sais pas quoi, ça craint déjà, quoi. Même si tu mets zéro information après dans ta fiche, quoi.
Puis pour finir avec Internet, on a aussi les pages jaunes.
Ouais.
Qu'on rachetait récemment un site américain qui s'appelle 123 People et qui là reconstitue, évidemment à ton insu, beaucoup de choses sur toi, selon ton nom, qui fait des recoupements informatiques sur.
Tout ce qu'il trouve sur Internet, voilà. il le chope.
Et le mieux, c'est si tu veux faire corriger des trucs.
Si tu veux faire corriger des trucs, je ne sais plus, mais ce que je sais, c'est que si tu as le nom de la personne, tu cherches quelqu'un, bon, tu trouves sur 1, 2, 3, ou tu trouves une phrase, quelque chose, tu cherches le nom sur 1, 2, 3, tu trouves le nom, tu rappliques sur page jaune et tu as l'adresse et le téléphone. C'est super.
C'est pratique. Et sinon, on a notre copain Thierry Lhermitte.
Ah bon ?
Ah oui. Monsieur Thierry Lhermitte.
Thierry Lhermitte.
Oui. Alors Monsieur Thierry Lhermitte, eh ben, lui, il investit dans le contrôle des internautes, la surveillance des internautes. Donc c'est la société dans laquelle il a mis pas mal d'argent, qui lui a cédé 50% de son capital, qui se trouve avoir été choisi par la Hadopi.
La fameuse haute autorité des droits.
Alors évidemment, ça aide à être choisi quand on a Thierry Lhermitte au capital. Et d'ailleurs, il a acheté ses parts pas trop cher. Et donc, il va se faire pas. Bah, il savait qu'il allait se faire du fric derrière. Il suppose, parce que Hadopi, bon, elle est toujours pas en marche. Le fameux logiciel qu'on doit mettre pour verrouiller son accès, sans quoi on est coupable de. Je sais plus quel terme ils emploient, de pas avoir verrouillé son accès, quoi. Bon. De négligence. Ce logiciel là il est toujours pas là, donc d'ici à ce que la Hadopi fonctionne, il aura peut-être perdu même de l'argent.
C'est jamais la société dans laquelle il faut surtout pas investir parce qu'il y a Thierry Lhermitte. Ça s'appelle Trident Media Guard, un nom super frenchy d'ailleurs. Au passage, TMG, tout pour ma gueule, hein, c'est ça?
Oui, c'est tout pour ma gueule, ouais.
et Et sinon, c'est vrai qu'il y a un candidat entreprise qu'on n'a pas mis dans la... dans le sous-groupe Internet, c'est Alcatel, mais qui est quand même candidat pour un problème lié à Internet. Mais il s'agit en fait de la Birmanie, parce qu'il y a un documentaire qui est sorti, une enquête de Paul Moreira, qui s'est penché sur les activités d'Alcatel en Birmanie via une filiale qu'ils ont en Chine. Ça s'appelle Alcatel Shanghai Bell. Et donc, son enquête montre que, très discrètement, évidemment, parce qu'apparemment, même à Paris, pour trouver les gens qui étaient au courant qu'ils avaient des activités là-bas, en Asie du Sud-Est, et il faut rappeler que la Birmanie, c'est quand même le pays le plus militaire et le plus orwellien du monde, pire que la Chine. Donc voilà, c'est pour l'activité commerciale, qui ne veut pas dire son nom, d'une entreprise française qui vend une technologie qui donc va filtrer et qui serait capable de filtrer toutes les requêtes entrantes et sortantes, et évidemment pour ficher des dissidents ou pour emmerder le moindre citoyen qui envoie un courrier malfaisant. Et donc Alcatel est dans la liste.
C'est un fournisseur de moyens.
Et il y a, enfin, en tout cas, dans l'aspect Orwell entreprise, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le contrôle des salariés. En fait, là, vous êtes plutôt dans les entreprises qui développent les nouvelles technologies.
C'est vrai. Là aussi, pour arriver à trouver des candidats emblématiques, c'est
bah si, il y avait un truc de géolocalisation.
Ouais. On a tiré
SPI communication.
SPI communication, géolocalisation, eux, oui, c'est leur chauffeur, leur technicien qui se déplace en voiture. Ils ont mis un GPS en disant que c'était pour... pour une meilleure gestion, mais le marchand lui-même de GPS dit que c'est pour améliorer les rendements, donc il sait de quoi il parle, hein. Il le vend à tous ses clients, donc les salariés se sont fortement opposés, ils ont fait un test, et puis malgré l'opposition, ils l'ont mis en place sur un certain nombre de plusieurs milliers hein, de véhicules, je crois, ou plusieurs centaines, ou plusieurs milliers. Et ils ont porté plainte. Ils ont déposé un truc à la CNIL et ils ont porté plainte pour atteinte à leur liberté de personne.
Donc en fait, il y a peu de mobilisation des salariés sur ces questions-là, parce que je suis quand même surprise qu'il n'y ait pas plus de dossiers.
Non, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de dossiers que ce n'est pas un cas. Le problème, c'est d'arriver à être au courant de ces cas-là.
Ouais, c'est ça, ouais.
Moi, je pense que la précarité, elle est telle en ce moment que les gens aussi, ils ont peur de perdre le taf misérablement payé qu'ils ont et ils ne réagissent pas, peut-être pas suffisamment. Mais il y a cette peur qui fait que ça ne bouge pas à certains endroits. Hein.
C'est vrai que porter plainte aujourd'hui pour atteinte à la vie privée dans une entreprise, alors que tu as un boulot et que tes copains ils n'auront plus à la fin du mois et que la boîte va fermer dans 3 ans, c'est assez chaud quoi, comme démarche. Hein. C'est,
Ouais, même les syndicalistes sont dans le collimateur et parfois payent le prix fort. Donc,
Mais je crois qu'il y avait plus de cas de syndicalistes ou de salariés qui s'opposaient au flicage les années précédentes, non ?
Pas forcément. C'est pas vraiment. Il y a nos copains suisses, par exemple, qui ont créé carrément eux une rubrique où il n'y a que ça.
Ouais.
Donc ils ont 5 ou 6 candidats tous les ans là-dedans. Les Allemands aussi sont très forts. On aurait pu aller effectivement chercher, mais bon, on a quand même 50 candidats sous les bras.
Ouais, bien sûr. Ouais.
L'idée, c'est vrai que on a choisi finalement de distinguer une société qui fait un flicage particulier, c'est-à-dire que la géolocalisation qui me semble une tendance, justement, comme on l'avait pu sentir il y a 2-3 ans avec la biométrie. Là, c'est vraiment le truc qui cartonne bien.
Autrement, il nous reste l'Orwell localité.
Les localités.
Il y a du monde.
Là, c'est donc lié à des atteintes de proximité, on va dire. Donc, ça peut être des responsables politiques, des élus locaux. Dans les régions, les villes, les départements. C'est vrai qu'il y a pas mal de mairies, évidemment, tous les ans qui sont épinglées pour vidéosurveillance. Mais là, il y en a tellement qu'on ne va évidemment pas tous les ans faire la liste.
Là, il y a du gros calibre, genre Strasbourg et Nice, sur la vidéosurveillance.
C'est vrai que Strasbourg avait déjà été dans la liste, il me semble, des années précédentes, mais pas Nice du tout. Et c'est vrai que le fait qu'Estrosi soit... Monsieur Estrosi soit maire maintenant, il est mis le paquet. Il y a quoi d'autre ? Il y a aussi Jean-François Copé, Hameau, lui qui est plus dans le langage, hein, c'est ça ?
Bah lui, c'est la vidéosurveillance, il en met, il trouve aussi que c'est efficace. Mais il dit quand même qu'il veut protéger les libertés, mais ils le disent tous, enfin la plupart. Hein. Et puis, il y a aussi les histoires du droit à l'image. Quoi. Il remet en cause le droit à l'image et le droit à l'information. Quand les vidéos sont prises, par exemple, on le voit en train de rigoler bêtement aux plaisanteries d'Hortefeux sur les Auvergnats. Bon, là, il est contre la liberté d'informer et il appelle ça le droit à l'image. Est-ce qu'il faut remettre en cause le droit à l'image ?
Oui, et puis on a aussi un groupe scolaire, parce qu'il y a quelques années, on avait mis en exergue on n'a pas beaucoup de temps encore, je vais faire vite. Des collèges, des lycées qui installaient de la biométrie dans leur cantine. Mais là, on a vraiment un groupe scolaire près de Tours, à Loche,
ouais, c'est ça.
Qui là est vraiment mais dans le délire orwellien premier. Un groupe privé, donc il y a des caméras jusque dans les toilettes. Quoi, donc,
c'est fou ça pour les élèves.
Ouais. Dans les toilettes, dans les dortoirs.
Évidemment, il y a un système biométrique d'empreintes digitales, ce qui. Même la CNIL dit que c'est interdit parce que c'est grave. Donc, si la CNIL le dit, voilà. Donc, biométrie digitale dans les cantines, caméras de surveillance partout, y compris dans les toilettes. Bon, voilà. Donc là, c'est total. Je pense qu'on a le record de France, à mon avis. Hein. C'est une enquête de notre collègue Jean-Marc Manac. Mais c'est vrai que, franchement, quand on voit la liste de ce qui se passe dans cet établissement, on se demande comment ça se fait qu'il peut avoir encore des élèves. Quoi. Ça doit rassurer les parents, on va dire.
est-ce qu'on on termine un petit peu sur l'Orwell localité ou vous avez des choses à dire sur le Voltaire, je ne sais pas.
Voltaire, on n'a pas encore fini là.
Vous n'avez pas fini. Donc
en fait, on l'a publié un petit peu en retard. Donc on ne va peut-être pas évoquer maintenant, mais tout est en ligne sur notre site internet. On a encore des indécisions sur la...
Non, on peut finir sur localité. Alors on a M. Béchiza, qui était des têtes de liste en Île-de-France, ancien syndicaliste de la police.
Synergie.
De Synergie. Et c'est monsieur sécurité, c'était le monsieur sécurité de Valérie Pécresse.
Il a fait une déclaration sur le fait qu'il voulait sur vidéo protéger les rames de métro pour les personnes vulnérables, notamment les femmes.
Alors, il s'est fait attaquer en disant oui, pourquoi que les femmes, qu'est-ce que c'est, les femmes sont faibles. Il a dit non, c'est pas ce que je voulais dire, mais les enfants de 15 ans, ils peuvent y aller aussi. Hein, mais ce qui veut, le truc qui est absolument stupide, mais c'est une stupidité sans nom, c'est de mettre tout le monde dans la rame de tête, même avec un max de caméras. Tu rentres avec une bombe de peinture noire. Et voilà, c'est bon. Et ils ont tout le monde sous la main. Et c'est trop, ouais. Trop facile.
C'est trop débile, quoi.
Et quand même, un policier qui suggère ça, il ne devait pas être sur le terrain, je pense, M. Béchiza.
On va rappeler quelques dates importantes.
Les rendez-vous. Ouais.
Donc, le rendez-vous, c'est demain pour la conférence de presse à 9h30 à la cantine. C'est dans le deuxième, c'est sur internet, lacantine.org. Donc, pour la révélation du palmarès. Ensuite, deux semaines plus tard. Le 29 mai, à Saint-Denis, Compagnie Jolimôme, là aussi c'est sur le net. L'après-midi, Barcamp Atelier, le soir.
14h-18h.
Voilà, et le soir vers 18h30, un petit concert de
Jolimôme.
À partir de 18h. Petit concert de Jolimôme, et puis plein de choses aussi qui vont suivre, des surprises. On ne sait même pas quasiment complètement nous ce qui va se passer. Voilà, c'est ça.
On ne contrôle rien.
Voilà. Contrôle minimum.
Ben merci donc Christine et Jérôme. Donc
bigbrotherawards.eu.org pour le site internet. Voilà. Tout est lâché.
Dans 15 jours. Hein.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money. Hurricanes blowing in my head, a clock ticks, tick, tick.
potato. Get the money, pay the Eskimo. Sitting with your money and ain't